parce que comprendre les enjeux du bien-être de nos aînés permet de mieux les accompagner, La Pause Santé interviewe des experts de la santé pour vous, auxiliaires de vie, qui êtes au plus proche des personnes âgées au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Santé. Aujourd'hui, nous allons vous aider à y voir plus clair sur la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie de la vue qui touche principalement les personnes âgées et dont vos bénéficiaires peuvent être atteints. Pour cela, je vais interviewer pour vous l'ophtalmologue Dr Mingui. Dr Mingui, bonjour. Dans un premier temps, je vous laisse vous présenter à ceux qui nous écoutent.
Oui, bonjour, je suis Dr Mingui, je suis ophtalmologiste au CHU d'Angers, spécialiste en rétine médicale et chirurgicale.
Très bien, aujourd'hui vous êtes là pour nous parler de la DMLA, cette maladie de la vue qui se manifeste le plus souvent chez les personnes de plus de 65 ans. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la DMLA et pourquoi elle est plus fréquente chez les personnes âgées ?
Alors, la DMLA, donc ça c'est un acronyme qui signifie dégénérescence maculaire liée à l'âge. La DMLA résulte de l'interaction entre des facteurs environnementaux, comme le tabac, et génétiques, qui ne sont pas encore tous complètement élucidés. Mais plus on avance en âge, effectivement, plus on a un risque important de développer une DMLA, puisque l'exposition aux facteurs causaux, même s'ils ne sont pas tous bien élucidés, est plus longue. C'est un processus dégénératif.
Quels sont les premiers signes et symptômes que les auxiliaires de vie pourraient surveiller chez leurs bénéficiaires et comment savoir est-ce qu'il est temps de consulter et quels sont les signes qui doivent les alerter ?
Les signes de la DMLA peuvent consister en une baisse de l'acuité visuelle, donc on voit moins bien, une apparition d'une tache noire au centre de la vision, ce qu'on appelle un scotome central, et ou une déformation des lignes, en particulier à la lecture, ce qu'on appelle des métamorphopsies. Cependant, l'atteinte n'est pas forcément symétrique, et lorsqu'on a un œil qui est plus atteint que l'autre, cela peut passer inaperçu un certain temps si le patient ne ferme pas alternativement un œil puis l'autre, pour s'en rendre compte. Du coup, quel que soit le symptôme, parce que les symptômes ne sont pas toujours associés, les trois en même temps, hein, baisse d'acuité visuelle, tache noire dans le centre de la vision, déformation des lignes. Donc, en cas d'apparition de l'un de ces symptômes ou de plusieurs de ces symptômes, cela n'est pas normal dans tous les cas. Ce n'est pas forcément une DMLA, mais ça doit alerter et il faut consulter un ou une ophtalmologiste, d'autant plus que l'apparition des symptômes est brutale. Voilà, il ne faut pas attendre, il faut consulter en urgence un ou une ophtalmologiste. En particulier au CHU d'Angers, on a une consultation d'urgence d'ophtalmologie où on accueille les patients sans rendez-vous tout au long de la semaine pour ce qui est des urgences visuelles.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment se déroule la consultation médicale quand on prend un rendez-vous, quand on est face à un des symptômes que vous venez de citer ?
Une consultation de DMLA se déroule globalement comme toute consultation d'ophtalmologie où des mesures sont prises de l'œil. Ensuite, selon les cas, on peut avoir un ou une assistante, si c'est par exemple dans le privé, qui commence à faire la lecture, puis des examens, des photos du fond d'œil, d'autres examens qui permettent de caractériser les choses. Et ensuite, on voit l'ophtalmologiste qui fait un examen des yeux à la lampe à fente et au fond d'œil, et ensuite qui discute avec le ou la patiente. En gros, il faut savoir qu'on distingue schématiquement deux formes de DMLA. Il y a une forme qui est dite atrophique et l'autre exudative ou néovasculaire, on appelle encore humide. La forme atrophique, elle peut progresser insidieusement, alors que la forme exudative, elle a un début plus rapide. Alors, pour revenir à la consultation, le plus souvent, en fait, la forme atrophique, elle est diagnostiquée lors d'un contrôle, d'un suivi de routine que le ou la patiente a pris. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un suivi régulier, au moins tous les 2 ans chez les personnes de plus de 40 ans. Et après analyse de l'acuité visuelle, du fond d'œil et de l'OCT, l'OCT, c'est un petit scanner de la rétine, on peut diagnostiquer une forme de DMLA atrophique. La forme exudative, elle amène plus souvent les patients à consulter en urgence. Et du coup, devant la présentation soit des symptômes qu'on a précédemment cités, baisse d'acuité visuelle, ligne déformée, tache noire au centre de la vision, et en se basant sur l'analyse du fond d'œil et de l'OCT, ainsi que d'autres examens qui permettent de mettre en évidence les néovaisseaux, parce que la forme exudative, c'est l'apparition de néovaisseaux au niveau de la rétine, là, ça permet de poser le diagnostic de DMLA, et dans ce cas-là, on propose une prise en charge adaptée.
Très clair. Les symptômes, donc, vous les avez évoqués, vous en avez évoqué 3 principaux, ils ont des conséquences sur la qualité de vie des personnes âgées. Comment les auxiliaires de vie peuvent aider les personnes atteintes de DMLA dans leur quotidien, atteintes de ces symptômes ? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour faciliter la vie quotidienne malgré la maladie ?
Selon l'avancement de la DMLA, on peut d'une part jouer sur la prévention et l'autosurveillance, surtout en étant à l'écoute, encore une fois, à l'écoute de toute plainte visuelle exprimée par les patients. Donc, les lignes déformées, taches noires au centre de la vision, baisse de la vision, en particulier de près, et des difficultés à la lecture sont des signes qui doivent alerter dans tous les cas. Et c'est surtout ça que peuvent faire les auxiliaires de vie, c'est être à l'écoute, en particulier de la moindre plainte visuelle, qui peuvent être un des premiers signes de la DMLA, parce que ça permettra d'avoir une consultation la plus précoce possible, ce qui aide à prendre en charge au mieux une possible DMLA. Après, pour les formes les plus avancées, où il y a une atteinte importante de la vision centrale, des aides peuvent permettre d'améliorer le confort visuel des patients. Alors, ça peut passer par l'amélioration des contrastes grâce à l'éclairage. Donc là, les auxiliaires de vie peuvent aider lors des moments de lecture, par exemple, à s'assurer que l'éclairage soit optimal. Après, ça peut passer par des tablettes numériques, des systèmes optiques et électroniques. Dans certains cas, il peut être utile de réaliser un bilan orthoptique associé à une rééducation basse vision, mais ça, c'est vraiment dans les cas où la DMLA est très avancée pour simuler le champ visuel périphérique, qui lui n'est pas atteint dans cette maladie.
Merci pour ces exemples concrets. Est-ce que la DMLA, elle peut rendre complètement aveugle quand elle est dans un stade vraiment très avancé?
Une DMLA atrophique ou exudative peut à terme compromettre la vision centrale et donc la reconnaissance des visages et la lecture. Cependant, si la DMLA est isolée, et en particulier s'il n'y a pas de glaucome associé ou d'autres pathologies rétiniennes ou ophtalmologiques, le champ visuel périphérique persiste, ce qui permet d'avoir accès à des solutions de rééducation basse vision, dont je parlais précédemment, pour utiliser la vision périphérique et limiter le handicap visuel.
Maintenant qu'on a abordé ces conseils pour tenter de mieux vivre avec ces symptômes qui troublent la vision, passons aux bons réflexes à avoir pour la prévenir. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes âgées qui veulent préserver leur vue?
Tout d'abord, limiter les facteurs de risque modifiables, en particulier le tabac. On sait que le tabagisme est un facteur de risque de développer une DMLA. Il est important de réaliser une autosurveillance afin de dépister une éventuelle complication néovasculaire au plus tôt, dans le cadre des DMLA atrophiques, car les DMLA atrophiques peuvent se compliquer de néovaisseaux et donc de formes exudatives de DMLA. Plus tôt la forme exudative justement de DMLA, plus tôt le néovaisseau est dépisté et traité, et meilleure est la récupération visuelle. Les patients peuvent cacher un œil, puis l'autre, afin de comparer et de chercher une éventuelle baisse de la vision, ou encore une fois une tache noire, ou des lignes déformées, qui sont des signes d'alerte qui doivent faire consulter un ou une ophtalmologiste en urgence. On peut également avoir recours à l'aide d'applications, comme l'application Audisight, qui s'écrit Audisight, afin de réaliser une surveillance régulière. Après, encore faut-il que les patients soient équipés en smartphone ou en tablette. Mais cette application permet de dépister au quotidien la vision et si la vision baisse, il y a une notification.
L'alimentation joue un rôle important dans la prévention de la progression de la DMLA. Est-ce que il y a des aliments que vous recommandez pour préserver la santé oculaire?
C'est un point important. On recommande une alimentation équilibrée, type régime méditerranéen, en privilégiant fruits, légumes, légumineuses, ainsi que des huiles riches en oméga-3. Il est également possible d'avoir recours à des compléments alimentaires à visée oculaire, à base d'antioxydants et de zinc, qui permettent de réduire le risque de progression et d'aggravation de la DMLA exudative.
Très bien, on a parlé tout à l'heure du tabac qui pouvait avoir une influence néfaste sur la DMLA. On peut penser aussi au soleil ou encore à l'exposition à la lumière bleue des écrans. Est-ce que ces facteurs-là ont un impact sur la DMLA?
Alors, oui, le soleil peut ressortir de temps en temps qu'une exposition au soleil pourrait être accélérée un petit peu ou favoriser le développement de la DMLA. Alors, pour ce qui est de l'exposition à la lumière bleue des écrans, c'est une bonne question parce que souvent on l'entend revenir, d'autant plus actuellement, où parfois chez les opticiens, on conseille beaucoup, avec un argument marketing, que les filtres pour la lumière bleue des écrans pourraient protéger. Alors, il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a pas d'étude avec un niveau de preuve suffisant qui ait permis d'établir un lien de causalité entre l'exposition à la lumière bleue des écrans et la DMLA. L'efficacité des filtres anti-lumière bleue sur la DMLA est théorique et elle n'est pas démontrée à ce jour.
Et enfin, est-ce qu'il existe des traitements pour soigner cette maladie? Et si on ne peut pas la soigner totalement, est-ce qu'on peut au moins la ralentir?
En 2023, on ne peut pas guérir de la DMLA. En revanche, depuis le milieu des années 2000, on dispose de traitements permettant d'avoir un effet suspensif sur la forme exudative pour faire régresser le liquide qui s'accumule dans et sous la rétine. Parce que c'est ça dont il s'agit dans la DMLA exudative, c'est qu'il y a un néovaisseau qui pousse sous la rétine de manière normale, et il y a du liquide qui apparaît et qui entraîne une baisse de vision. Et donc, ce traitement consiste, dans les formes exudatives, à réaliser des injections d'un produit dans l'œil, des injections intravitréennes de produits qui inhibent l'activité de ces néovaisseaux. Cependant, comme je vous l'ai dit, c'est un effet suspensif. Donc, il faut réaliser des injections répétées. Et lorsqu'on le commence à traiter, généralement, on part sur au moins 1 à 2 ans de traitement, sauf chez quelques patients chez qui 3 injections peuvent suffire. Ce traitement, il est contraignant, mais il est très efficace sur la DMLA exudative. Et d'autant plus efficace que le traitement est débuté tôt dans la maladie. Donc, encore une fois, importance du dépistage et d'être à l'écoute pour pouvoir consulter tôt et être pris en charge tôt. Ensuite, concernant la deuxième forme de DMLA, la forme atrophique, il n'y a pas encore de traitement disponible en France pour ralentir l'évolution. Mais plus d'une centaine d'essais cliniques sont en cours à différentes phases pour évaluer l'efficacité de molécules permettant de ralentir la progression de la DMLA atrophique. Récemment, il y a 2 molécules qui ont été approuvées par la FDA, c'est l'agence du médicament aux États-Unis, afin de ralentir la progression de la DMLA. Nous espérons que ces molécules arriveront en France à moyen terme. Une décision de l'Agence européenne du médicament devrait être rendue début 2024 concernant une de ces molécules. Par ailleurs, de nombreuses équipes de recherche en France et dans le monde travaillent sur différentes solutions pour restaurer la vision, en particulier chez les patients DMLA. On peut citer l'Institut de la Vision à Paris, qui est un centre de recherche de pointe en ophtalmologie. La recherche, bon, après, malheureusement, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on n'a pas des résultats immédiats et ça a un coût important, ce qui freine parfois les avancées. D'ailleurs, il est possible de soutenir la recherche à travers la fondation Voir et Entendre, qui est associée à l'Institut de la Vision.
D'accord. Laquelle des deux formes est la plus courante ?
Globalement, on retrouve les deux, mais la DMLA atrophique est le plus courant, mais peut s'émailler également en fait d'une forme exudative. Donc globalement, on fait une distinction entre deux formes, mais c'est une même maladie en fait. C'est juste qu'elle se manifeste différemment.
D'accord. Et le traitement par injection dont vous avez parlé au début, c'est un traitement que vous faites assez couramment ?
Oui, c'est quelque chose que l'on réalise en routine.
D'accord.
La majorité des cabinets d'ophtalmologie en France, ou en tout cas dans tous les CHU et hôpitaux en France, on a des vacations d'injection intravitréenne parce que malheureusement, il y a de nombreux patients qui en ont besoin.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je fasse ma petite conclusion ?
Le message important, c'était surtout le dépistage, être à l'écoute des patients. Et vraiment, le plus tôt c'est traité, en tout cas pour la forme exudative, meilleur est le pronostic. Donc, il ne faut vraiment pas négliger une plainte. Et parfois, les patients ne se plaignent pas en fonction de l'âge et de l'état des patients. Donc, il ne faut pas hésiter à leur poser la question, en particulier à la lecture ou de savoir s'ils se plaignent. Alors, parfois, ça peut être des maladies, des pathologies sur le plan ophtalmologique qui sont traitables facilement, comme la cataracte chez les personnes âgées, mais ça peut être aussi d'autres choses comme la DMLA. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas négliger les symptômes qu'ils peuvent avoir. Parfois, ils ne s'en plaignent pas trop. Donc, il faut vraiment être à l'écoute et leur demander, pas hésiter à les stimuler.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos questions. On a appris plein de choses sur la DMLA et sur comment, au quotidien, accompagner les personnes qui en sont atteintes. Merci beaucoup.
Alors, écoutez, merci à vous.
Vous venez d'écouter La Pause Santé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et tout de suite sur le site de Petit-Fils. La-pause-petit-fils.com